Dans le chapitre 17 de Jean, Jésus prie d'abord pour lui-même, afin de puiser en Dieu son Père la force d'aller s'offrir en sacrifice pour le péché. Mais il prie aussi et surtout pour ses disciples qu'il va laisser sur terre pour continuer son œuvre. Je continue le texte. « Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Versets 16 et 17. En vertu de la nouvelle naissance, les croyants sont des enfants de Dieu et font partie du monde céleste. Après avoir demandé au Père de les protéger, Jésus prie maintenant pour qu'ils soient mis à part en vue de remplir leur mission dans le monde et d'accomplir ainsi la volonté de Dieu, tout comme Jésus l'a fait. C'est lui qui est le modèle par excellence des chrétiens. Ceux-ci doivent donc se préserver des valeurs et des objectifs profanes prônés par le monde dans lequel ils vivent. Le moyen d'arriver à cette séparation d'esprit, mais non de fait, est d'épouser la perspective divine des réalités, tant spirituelles que temporelles. Cette vision des choses est révélée dans les textes sacrés. Lorsque j'y adhère et que je m'approprie son enseignement, la vérité des Écritures transforme ma façon de penser et de vivre. Je continue le texte. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. » Verset 18. Jésus, comme je l'ai dit, est le modèle par excellence, car il fut envoyé sur terre pour accomplir une mission précise. De la même manière, les croyants sont appelés à faire connaître le Père. À la fin de l'Évangile selon Matthieu, l'auteur nous rapporte les paroles suivantes de Jésus à ses disciples. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Fin de citation. Voilà quelle est la mission précise de tout croyant. Je continue. « Et, dit Jésus, je me consacre moi-même à toi pour mourir pour eux, afin qu'ils soient, à leur tour, consacrés à toi par la vérité. » Verset 19. Cette consécration est l'engagement de Jésus à mourir pour ses apôtres et pour tous ceux qui viendraient à lui et accepteraient de devenir ses disciples dans la suite des temps. Jésus vient juste de dire que la parole de Dieu est la vérité. Et quelques chapitres auparavant, il avait dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Fin de citation. La connaissance et la mise en pratique des enseignements contenus dans les textes sacrés a le pouvoir d'affranchir l'homme de ses passions, de ce qu'il enchaîne et de lui permettre donc d'obéir au Père. Un des buts de la mort du Christ était l'envoi du Saint-Esprit. Grâce à lui, les disciples seront dotés de la puissance surnaturelle nécessaire pour accomplir la mission que Dieu leur confie. En l'occurrence, faire connaître la personne de Jésus autour d'eux et jusqu'aux extrémités de la terre. Je continue le texte. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur témoignage. Verset 20. La dernière partie de la prière de Jésus de ce chapitre anticipe une moisson d'âmes, si on peut dire. La mission des premiers disciples va porter des fruits et une nouvelle communauté va naître. Il s'agit bien sûr de l'Église. Depuis la Pentecôte, des gens de toute race et de tout milieu ont trouvé le pardon de leurs fautes en venant au Christ. Ils sont le résultat du travail des apôtres qui ont eux-mêmes tout reçu de Jésus, lui-même étant l'intermédiaire, le pont, l'échelle entre la race humaine et le Père. En outre, Jésus savait d'avance que sa mission réussirait. Il allait mourir, ressusciter, puis envoyer l'Esprit. Ensuite, les premiers croyants annonceraient la bonne nouvelle de l'Évangile et des gens se convertiraient à lui. Dans l'Ancienne Alliance, les grands prêtres portaient symboliquement les noms des tribus d'Israël gravés sur leurs vêtements de fonction. Je lis ce passage. « Tu prendras deux pierres d'onyx sur lesquelles tu graveras les noms des fils d'Israël. Ces pierres rappelleront le souvenir des fils d'Israël et Aaron, le grand prêtre, portera leur nom sur deux épaules devant l'Éternel comme un constant rappel. Ainsi, lorsque le grand prêtre Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël pour en évoquer constamment le souvenir devant l'Éternel. » Fin de citation. De la même manière, Jésus, le dernier et le divin grand prêtre, portait par la prière tous les futurs croyants dans la présence du Père Céleste. Je continue le texte. « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Verset 21. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui a permis l'unité des croyants. Elle s'exprime par un amour fraternel, surnaturel entre eux, qui prouve que Jésus était bien l'envoyé de l'Éternel et que son message de salut est authentique. Ce passage est l'un des préférés du mouvement dit œcuménique. Certes, les divisions au sein de la véritable Église du Christ sont scandaleuses. Elles sont d'origine satanique, mais cela ne les excuse absolument pas. Cependant, le remède ne réside pas dans une union institutionnelle. Jésus ne demandait pas pour l'unité au sein d'une mouvance œcuménique mondiale, dans laquelle seraient maintenues côte à côte l'hérésie et l'orthodoxie. Non, il priait pour que les disciples soient unis dans un amour divin, surnaturel et caractérisé par l'obéissance aux commandements de Dieu qui sont clairement donnés dans les Écritures. En effet, il ne faut pas confondre l'uniformité, l'union et l'unité. Tous les vrais croyants constituent le corps du Christ sur terre, selon l'enseignement du Nouveau Testament. Leur unité spirituelle doit se manifester dans leur manière de vivre et dans leurs rapports les uns avec les autres. L'unité que Jésus désire pour son Église est du même genre que celle qui caractérise la relation du Fils avec le Père. C'est exactement ce qu'il dit par ses paroles « Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous. » Fin de citation. Le Père a réalisé son plan pour l'humanité par l'intermédiaire de son Fils qui a toujours fait ce qui lui était agréable. Le but de la vie de tout chrétien est le même que celui de Jésus, c'est-à-dire accomplir la volonté du Père. Je continue le texte. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Versets 22 à 23. Ces versets utilisent un vocabulaire simple mais très riche de sens. Ce que Jésus affirme confond l'imagination. Celui qui place sa confiance dans le Fils de Dieu devient un avec son Créateur. Le Père réside en Jésus, qui est lui-même dans les croyants par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Dieu en trois personnes habite donc le chrétien. Jésus qualifie à nouveau l'unité des chrétiens en la plaçant au même niveau que celle qui existe entre lui et le Père. Il a manifesté la gloire de Dieu à ses disciples par sa présence avec eux et en leur donnant la vie éternelle, car il en est la source. Le but de l'unité de l'Église est d'une part d'attester que la mission du Fils de Dieu était divine, et d'autre part de communiquer aux incroyants que le Père a un amour profond, intime et durable pour les croyants, et équivalent à celui qu'il porte à son Fils. Si on prend la peine d'y réfléchir, cet amour de Dieu pour sa créature est quand même extraordinaire. Je continue le texte. « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Verset 24. À l'origine, l'Éternel avait créé l'homme à son image afin d'entrer en communion parfaite avec lui. On connaît la suite avec la désobéissance de nos premiers parents qui furent chassés du paradis. Mais de toute éternité, Dieu avait un plan de rechange, pour ainsi dire, car il ne peut pas être pris au dépourvu. Il a donc mis en chantier la rédemption de l'homme qui a commencé par une promesse à Adam, puis le choix d'Abraham, suivi de la loi de Moïse, avec toutes ses cérémonies complexes et sacrifices interminables, et enfin, la croix. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À la fin des temps, le but originel de l'Éternel sera réalisé avec tous ceux qui, au cours des siècles, lui ont fait confiance. Ils jouiront d'une communion sans nuage avec leur Créateur pour l'éternité. Les dernières volontés de Jésus, son testament en somme, est que ses disciples contemplent sa gloire. Ce sera effectivement leur plus grande satisfaction dans les lieux célestes. Je n'ai aucune idée de ce que cela représente. Je sais par contre qu'un magnifique coucher de soleil ou un arc-en-ciel majestueux ne sont que de bien pâles reflets de la gloire du Fils de Dieu. Puisque sa volonté est identique à celle du Père, il est certain que son désir s'accomplira. Je finis maintenant ce chapitre. Père, toi qui es dans la vérité, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Versets 25 à 26. Les paroles de Jésus, quoique très simples, continuent à être très riches de sens. Il termine cette longue prière en lançant un appel au Père qui est la source de la vérité, alors que le monde qui rejette le Christ est dans l'erreur. Une fois de retour dans sa gloire céleste, Jésus va envoyer le Saint-Esprit à ses disciples, et c'est par son intermédiaire qu'il va continuer à leur révéler le Père. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Jésus a fait connaître le Père et son amour au monde en mourant sur la croix. Et le Père, quant à lui, a fait connaître son amour pour le Fils en l'élevant dans la gloire. Voilà résumé l'œuvre accomplie par les deux personnes de la Trinité. Ce très long discours d'adieu dit de la chambre haute de Jésus à ses disciples s'est terminé par une extraordinaire prière d'intercession. Jésus a prié pour lui-même, pour ses apôtres et pour ceux qui croiraient dans la suite des temps. Il demande au Père de le glorifier, c'est-à-dire de révéler à tous qui il est véritablement. La résurrection va manifester qu'il est le Fils de Dieu. Et ainsi, le Père de Jésus sera reconnu comme l'éternel Dieu de l'Ancien Testament par ceux qui croiront. Cependant, la plus grande partie de cette prière concerne les disciples. On y discerne le souci du Seigneur pour ceux qu'il va laisser derrière lui dans un monde qui va les haïr et les persécuter. La requête centrale de cette longue intercession est la consécration de Jésus et de ses disciples. Pour le Seigneur, cela signifie l'obéissance au Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Pour les croyants, c'est leur engagement à révéler Jésus-Christ, sa personne et sa mission au monde hostile. Jésus prie aussi pour l'Église qui va naître, afin que par son unité dans l'amour, elle le représente dignement sur terre. Son rôle n'est pas de s'isoler du monde, mais de lui faire connaître l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Ce chapitre est aussi la suite de l'enseignement que Jésus a donné à ses apôtres dans la chambre haute où ils ont célébré la Pâque. Cette prière nous apprend que les croyants ont été donnés par le Père au Fils, qu'ils vont demeurer dans le monde sans pour cela en épouser les valeurs. Ils vont subir la haine et l'hostilité des non-croyants, mais ils seront préservés de la furie du diable. Ils sont envoyés pour proclamer l'Évangile dans le monde devant lequel ils doivent se montrer unis. Dans cette prière, Jésus adressa plusieurs requêtes à son Père au nom des croyants. Il pria pour leur protection, leur consécration à faire sa volonté, l'unité entre eux et leur participation à sa gloire. Et on peut être certain que cette prière a été exaucée, qu'elle l'est présentement et qu'elle continuera à l'être. Nous voici arrivés au chapitre 18 où va commencer la lente agonie de Jésus qui se terminera par son exécution. Cependant, contrairement aux trois autres évangiles, l'apôtre Jean ne met pas l'accent sur l'humanité du Christ en s'attardant sur ses souffrances. Il va plutôt mettre en avant sa divinité et sa majesté. Il est le Fils de Dieu. Je commence à lire. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Verset 1. Le Cédron est un lit de torrent qui descend du nord de Jérusalem jusqu'à la mer Morte. Ce lieu est très symbolique car il fait le lien avec une prophétie de l'Ancien Testament. Alors que Jésus se dirige vers le jardin des Oliviers, Judas est en train de le vendre aux religieux pour la somme de 30 pièces d'argent. Quelques 10 siècles auparavant, c'est alors qu'il traversait cette même vallée que le roi David fut trahi par son soi-disant ami et qu'il dut décamper au plus vite. Mais Jésus, lui, ne va pas s'enfuir. Ce jardin était un endroit où le Seigneur et ses disciples se réunissaient tous les soirs pour bivouaquer lorsqu'ils étaient à Jérusalem. Pendant le temps des fêtes, des milliers de Juifs affluaient vers la ville sainte et devaient eux aussi vivre sous tente ou dans d'autres abris temporaires. Je continue le texte. Or Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Verset 2. Jésus savait fort bien que les religieux n'osaient pas l'arrêter alors qu'il était dans les rues de Jérusalem ou bien dans le temple à enseigner. Ils auraient en effet couru le risque d'une insurrection de la part de la foule qui aimait bien Jésus. Cela aurait fait intervenir l'armée romaine avec des conséquences catastrophiques. En allant dans ce jardin quasi désert, Jésus donnait à ses ennemis l'opportunité de se saisir de lui. Il ne voulait pas leur échapper puisqu'il fallait qu'il devienne l'agneau de Dieu sacrifié. Judas, quant à lui, n'était pas quelque monstre sanguinaire, mais un homme ordinaire, esclave de l'appât du gain et de la soif de pouvoir. Dès qu'il a compris que son maître n'établirait pas un royaume politique, il s'est ouvert à Satan qui s'est servi de lui pour accomplir ses desseins. Je continue. Judas prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Verset 3. Une troupe imposante vient arrêter un homme sans armes. D'après un autre évangile, il est écrit « Jésus se tourna vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné cette troupe pour le prendre et leur dit « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus avec épée et gourdin ? J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure. » Et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » Fin de citation. L'importance de cette troupe en armes est symbolique. Elle illustre la hargne des forces des ténèbres qui viennent de nuit faire leur besogne satanique. La présence de soldats romains montre bien que le ministère de Jésus était perçu comme ayant une dimension politique. Pour une fois, les autorités juives et romaines collaboraient parce que Jésus était considéré comme un agitateur qui prétendait être une sorte de roi. Je continue. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » « C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Versets 4 et 5. La scène décrite est des plus dramatiques. Jésus vient de finir de prier. Judas arrive à la tête d'une troupe armée jusqu'aux dents pour s'emparer de Jésus par la force, alors qu'il est seul, car ses disciples sont alors tous endormis. Loin d'être surpris, Jésus prend très dignement la direction des opérations de son arrestation. Il aurait facilement pu s'enfuir, comme vont le faire les 11, mais il acceptait d'accomplir la volonté de son Père. Il fallait qu'il en soit ainsi et que s'accomplissent bon nombre de prophéties comme celle-ci. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.